Encore une fois, c'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous. Et comme vous voyez ce matin, on est encore dans l'Ecclésiaste ensemble. Et l'idée ce matin, on va continuer à regarder la recherche de Salomon. Et j'ai intitulé ce matin le message « La poursuite du bonheur ». Pourquoi? Parce que vous allez voir, Salomon, il commence et on va lire le chapitre 2, les 11 premiers versets. Il essaye quelque chose qu'on va souligner. On va prendre beaucoup de temps pour expliquer certains principes, des façons d'approcher, d'aborder la vie qui sortent du texte. Donc, on va regarder ensemble les 11 premiers versets du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 2. Donc, Ecclésiaste 2 nous dit « J'ai dit dans mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, tu goûteras le bonheur, et voici, c'est encore là, une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus donc en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécuterai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons et je plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres, j'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'or et de l'argent, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs, des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Donc, pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous vous souvenez comment est-ce qu'on a imagé notre beau mot « vanité » ? Oui, il y avait un effet sonore, hein? Mais on a fait l'image. La vanité, c'est quand on crée quelque chose, on poursuit quelque chose, et là, on le regarde, ça a l'air beau, mais quand on y touche, c'est vide, ça pète comme une bulle de savon. Peu importe à quel point tu la fais belle, quand tu y touches, elle pète. Et quand on regarde dans l'Ecclésiaste, il y a cette idée-là de poursuite du bonheur. Il a essayé tout ce qu'on fait. Et la première chose qui ressort, c'est qu'il a essayé tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel. Et pour ceux et celles qui sont chrétiens depuis un certain temps, vous savez qu'il y a une image, il y a une idée qui est l'hédonisme. Vous savez c'est quoi l'hédonisme? C'est le système philosophique qui fait du plaisir le but de la vie. Mais aussi, c'est chercher le maximum de satisfaction par le minimum d'effort. OK? Être un hédoniste, là, c'est quelqu'un qui va chercher à avoir le plus de plaisir possible puis que ça y coûte le moins cher possible, ou que ce soit le moins difficile possible, de faire que sa vie soit le fun, amusante, distrayante. Et quand on parle de l'hédonisme, vous savez, j'aimerais vous dire que ce n'est pas nécessairement un péché ancré profondément dans l'homme. C'est normal de vouloir chercher ce qui nous fait plaisir. C'est normal. Notre cerveau, Dieu nous a créés avec des hormones qui sont très puissantes. OK? Dieu vous a créé avec l'instinct de survie, l'adrénaline. Dieu vous a créé, chacun d'entre nous, avec des récepteurs et qui vont réagir plus ou moins fort à différents stimuli. Sachez que, comme chacun d'entre nous, nous sommes uniques, nous sommes tous filés ou connectés dans notre cerveau de façon unique et tout le monde réagit différemment. Et une chose que Dieu nous a créée, c'est que ce qui nous fait plaisir, on va le chercher. Vous êtes créés comme ça. Et Dieu n'est pas surpris que nous cherchions, chacun d'entre nous personnellement, notre propre plaisir. On est fait comme ça. Et c'est aussi normal que l'homme cherche à atteindre ce plaisir-là en faisant le moins d'efforts possible. Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes filés, connectés dans notre tête comme ça. Le moins d'efforts, si je peux avoir le même plaisir pour moins d'efforts, je vais le faire. Et là, parfois, on se dit, « Ah, je ne comprends pas trop. Si je vous trouve une façon de faire 1000 $ mais que ça vous prend 2 semaines de job, vous allez dire, « Ouais, peut-être. » Mais si je vous dis, « En 5 minutes, tu te fais 1000 $ Et là, quand on commence à parler d'argent, c'est du concret, on comprend. Mais le plaisir, c'est un peu la même chose. Notre cerveau, en fait, c'est un peu la même chose et c'est différent. C'est que vous êtes fait, créé, pour être connecté, et tout ce que vous avez vécu dans votre vie jusqu'à aujourd'hui a influencé ces connexions. Donc, vous cherchez le plaisir selon comment vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et on est tous différents. C'est pour ça qu'il y a des gens qui trippent sur le sport, il y en a qui détestent le sport, il y en a qui aiment les films, il y en a qui dorment dessus. C'est... Vous êtes fait et ce que vous avez vécu, et ça, c'est votre cheminement avec Dieu. Et chercher à faire du plaisir le but de la vie, on ne s'en rend pas compte. Mais la société en général, elle est habitée par ça partout. Et je travaille avec des ados. Si vous avez travaillé moindrement dans l'école du dimanche ou dans l'enseignement des enfants, si vous êtes déjà allé dans une école ou une garderie, c'est quoi la motivation numéro un pour tous les enfants et les adolescents que vous rencontrez? Faut que ça soit le fun. Si c'est pas le fun, je le ferai pas. Puis si c'est le fun puis que ça va m'attirer du trouble, je vais peser le pour et le contre et peut-être le faire quand même. J'ai déjà été jeune. Mais il y a cette idée-là et une chose que la Bible nous enseigne à faire, et si vous êtes un lecteur de John Piper et C.S. Lewis et Charles Spurgeon, ce sont des hommes qui ont réalisé la quête de plaisir humaine n'est pas péché si elle est mise en Dieu. Si vous êtes capable de trouver votre plaisir en Dieu, vous pouvez faire de la quête normale de chaque être humain votre but. Trouver son plaisir en Dieu. Et donc, il y a une approche ici. Et pourquoi je vous dis les données, c'est que quand vous lisez l'Ecclésiaste, il dit, « J'ai dit dans mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie, tu goûteras le bonheur. » Donc, il a essayé, Salomon a essayé, littéralement, de trouver la joie, de trouver le bonheur, et il dit, « Voici la liste de tout ce que j'ai fait. » Donc, dans la recherche du but de la vie, il a essayé le plaisir. OK? Et là, si on trouve son plaisir en Dieu, ça veut dire quoi? Où est-ce que ça commence, cette idée-là, de vraiment trouver notre plaisir en Dieu? Parce que c'est la quête humaine normale de chercher le plaisir, la joie, le fun, name it. OK? Ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, c'est ce qu'on va chercher. Et une des raisons premières qu'on cherche, qu'on veut essayer de trouver notre plaisir en Dieu, c'est simplement que, Croyez-le ou non, c'est un commandement de Dieu. Si vous tournez rapidement dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 5, Paul nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». Donc, quand on a un verbe en EZ, on appelle ça un impératif, mais... Et on est capable de dire « C'est un commandement ». Donc, Dieu nous commande « Réjouissez-vous », mais pas juste pour le fun, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et donc, encore une fois, comment on fait? Mais il y a aussi un autre côté, si vous lisez dans la loi, si vous lisez dans Deutéronome, quand Dieu répète la loi, et dans Deutéronome au chapitre 28, les versets 47 à 48, Dieu accroche aussi une bémol. Il dit, si vous vivez votre vie et que vous essayez de suivre mes commandements, mais que votre cœur n'y est pas, que vous vivez un peu n'importe comment, vous allez vivre et votre vie va être, et là je paraphrase, mais vous allez vivre un fardeau, ça va être un poids, ça va être difficile et en essayant de suivre Dieu et le monde, vous allez servir vos ennemis et Dieu va vous juger comme ça. Donc, chercher Dieu, mais aussi le monde, nous amène, selon la parole de Dieu, nous amène à simplement choisir un des deux. Hein? Jésus l'a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il adorera un et méprisera l'autre. » Et malheureusement, nous sommes faits et créés pour rechercher le plaisir en premier. Et à la chute, on a brisé le lien et la capacité que nous avions à être directement connectés à Dieu. Et donc, lorsqu'on approche ces choses-là, on doit réaliser aussi que c'est dans l'essence du mal. Donc, le péché, c'est l'essence même d'abandonner notre plaisir disponible en Dieu et de le chercher ailleurs. C'est une façon qu'on pourrait définir le péché. Trouver... chercher ma joie et mon plaisir dans autre chose que Dieu. Et je pourrais citer C.S. Lewis qui l'exprime, vous l'entendez souvent, « Nous sommes trop facilement satisfaits. » On se satisfait de très peu. Et vous savez, récemment, en fait, toute la semaine, j'ai été obligé de lire un livre sur le fonctionnement du cerveau. C'est pour ça que je trouve ça vraiment le fun que ce matin, je parle de l'hédonisme. Vous savez, ils ont fait des tests sur plusieurs personnes, au moins 200-300 personnes, et ils ont découvert que près de 95% de la population va préférer un petit stimuli positif immédiat que ne pas prendre le stimuli immédiat dans le but d'avoir quelque chose de mieux plus tard. Je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si vous le comprenez, je l'ai peut-être mal exprimé, mais en tant qu'être humain, on est tellement accro au plaisir. Et Dieu a créé les hormones dans notre tête pour être tellement fortes que les êtres humains en général vont préférer un petit moment de fun maintenant au lieu de beaucoup de gloire et de plaisir futur. OK? Et le test a été fait, les études prouvent que c'est normal. On est tous ou presque comme ça. Et donc, nous devons réaliser notre besoin de trouver notre plaisir en Dieu et de faire de la confiance à la parole de Dieu et à ses commandements. Et donc, pour pousser un petit peu plus loin, une bonne définition de quelque chose qui arrive à la conversion, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, selon Jérémie 31 et selon Ézéchiel 36, Dieu nous dit « Je vous donne un nouveau cœur ». Une capacité que vous n'aviez pas d'aimer ce que Dieu aime. Et lors de notre conversion à Jésus, une chose que Dieu fait par sa grâce, c'est de nous aider à réaliser tous les plaisirs qui sont disponibles en Jésus. Tout ce qui est disponible en Christ. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire soi-même. Réalisez bien, Dieu doit changer votre cœur. Dieu doit, par son Saint-Esprit, enlever mon cœur de pierre et me donner un cœur qui aime ce que Dieu aime. Et là, j'ai une question pour vous. Je vous laisse réfléchir pendant que je prends une petite gorgée d'eau. Qu'est-ce que Dieu aime? Il n'y a personne qui parle. Ça doit être une question difficile. Qu'est-ce que Dieu aime? Et là, les réponses peuvent être larges. On sait que Dieu nous aime. Hein, on aime ça se le rappeler. Dieu nous aime. Et il nous a aimés à un tel point que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. La Bible nous dit, alors que nous étions ses ennemis, Christ s'est approché de nous. On aime ça dire ça, mais la vraie question, qu'est-ce qui compte le plus pour Dieu? Je vais vous donner une réponse rapide. Dieu, ce qui l'intéresse le plus, c'est sa propre gloire. Et il y a plusieurs versets qui vont nous l'apprendre. Jésus est venu sur terre pour la gloire de Dieu. Jésus est venu sur terre pour nous sauver, pour que nous ayons un plein rachat de nos péchés, pour glorifier son Père. Jean, dans Jean, au chapitre 17, il dit, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi. » Dans le but, Jésus est venu et il a vécu. Et là, pourquoi je dis ça? Parce que réaliser tous les plaisirs et les choses qu'on a en Dieu, on doit apprendre à aimer la même chose que Dieu. Si Dieu dit que c'est bon, c'est bon. Si Dieu dit, « Fais pas ça », fais pas ça. Et donc, dans nos vies, on est appelé à aimer ce que Dieu aime. Et ce que Dieu aime le plus et par-dessus toute chose, c'est sa propre gloire. C'est lui-même. Pourquoi? Et là, on va faire quelques petits raisonnements circulaires ensemble. Si Dieu est parfait, donc Dieu est parfait, aimer quelque chose d'autre que ce qui est parfait, est-ce que c'est parfait? Est-ce que Dieu peut aimer autre chose que sa gloire plus? Hein, je le formule d'une façon bizarre. Hein? Mais c'est une façon de réfléchir. C'est que si Dieu est si bon, si parfait, si grand, éternel, infini, qu'il n'avait pas besoin de nous, qu'avant la fondation du monde, il était complet, parfait et pleinement satisfait en Christ, comme la parole de Dieu nous l'exprime, ce que Dieu aime le plus par-dessus tout, c'est lui-même, sa perfection. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ensemble, éternellement satisfaits dans leur relation l'un de l'autre. Si Dieu dit ça, c'est la chose la plus importante, la plus géniale, la plus grande, c'est le plus grand des plaisirs que vous pouvez trouver. Il est divin, il est saint, il est éternel. Est-ce que je le crois? Et donc, mon approche de Dieu, mon amour pour Dieu ne peut pas être centré sur mes désirs. Parce que mes désirs sont toujours teintés de péché. Et puis là, on peut quoter C.S. Lewis, on est tellement satisfait par des choses niaiseuses qui ne servent pas à grand-chose. Je veux dire, facile. Et Salomon nous fait une liste, les biens matériels, les idéologies, bien paraître devant les autres, s'amasser des trésors de l'argent, avoir un grand nombre de femmes, avoir du prestige, être intelligent. Toutes ces choses-là, on va les regarder rapidement. Mais la vraie question, c'est est-ce que je cherche la même chose que Dieu? Si vous lisez le psaume 115 au verset 1, après avoir gagné une grande bataille, le psalmiste s'exprime et il dit, « Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Glorifie-toi, Seigneur, dans nos vies. » Et là, si vous allez un petit peu plus loin, je vais vous donner quelques versets clés ici de chercher d'un hédoniste chrétien. « Ne vous inquiétez de rien en Luc 12, mais faites connaître vos besoins à Dieu. » Colossiens 4, verset 5, Et Thessaloniciens 4, 1 et 8, un peu la même chose. Et là, le verset clé, en fait, on reviendra à ça. 1 Corinthiens 10, 31, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout parce que c'est le fun. » Faites tout parce que c'est le fun. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Faire toute chose pour la gloire de Dieu, c'est pas mystique, OK? L'idée, là, c'est que tout ce que je fais va être teinté de mes affections, va être teinté d'une motivation profonde. Je peux décider de vivre ma vie pour moi-même et aller m'acheter des bons steaks, vivre ma vie, mettre du gaz dans mon char, me promener, servir à l'église, venir le dimanche matin, essayer d'être propre, élever mes enfants pour moi-même, parce que ça me fait du bien. Parce que je parais bien. Mais je peux faire toutes ces choses-là en glorifiant Dieu, en disant « Merci Seigneur pour les steaks. » Si vous êtes vegan, je suis désolé. « Merci Seigneur pour les steaks. Merci Seigneur pour la pêche. Merci parce que j'ai été capable d'avoir une maison avant que les prix grimpent en malade mentale. Merci Seigneur pour, merci, merci. » Et là, le focus où mon centre d'intérêt n'est plus moi, il se transforme, il est vers Dieu. Je peux vivre une vie dans laquelle je remercie le Seigneur. Je fais tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre avec toutes les capacités de plaisir qu'on peut avoir et qu'ensuite il dirait, « Non, tous les plaisirs sont péchés. Voici 10 choses que vous devez faire. » C'est toutes des noms en plus. Est-ce que ça ferait du sens? Non. Dieu nous a créés avec le désir premier de trouver le plaisir. Nous devons trouver notre plaisir en Dieu. Donc, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout veut dire tout, et c'est tout ce que tout veut dire. C'est important de réaliser. Tout ce que je peux faire, si je le fais pour la gloire de Dieu, peut être bon. Et là, ça veut dire que je vais vivre ma vie en m'éloignant du péché. Je vais suivre les commandements de Dieu. Je vais faire confiance à la parole de Dieu, à ses commandements. Dieu me dit, aime ton prochain comme toi-même, je vais lui faire confiance. Même si mon prochain est détestable, oui. Combien de fois est-ce que je dois pardonner? 7 fois 77, ça fait combien les bons en mathématiques? Beaucoup plus que ce qu'on va accorder nous-mêmes. Je vais faire confiance à la parole de Dieu et je vais faire ça dans toute chose. Je vais m'asseoir d'une façon ultime ou profonde. Je vais m'asseoir sur la grâce et la parole de Dieu, sur son amour pour moi. Je vais croire ce qu'il me dit et je vais lui faire confiance. Je ne vivrai pas dans le mensonge, je ne vivrai pas dans le compromis, je vais foncer pour Dieu. Si vous lisez dans Jean au chapitre 15, Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, on doit réaliser qu'il n'y a pas de réel amour pour les autres ou pour soi-même qui ne provient pas de la joie et du plaisir de connaître Dieu. Parce que c'est dans la joie et le plaisir de connaître Dieu que je réalise, oh, le fun que Marco peut avoir ne vaut pas grand-chose face à la grandeur de Dieu. Mais le vrai amour, le réel amour pour les autres, pour moi-même et pour Dieu, vient de tout ce qui est disponible en Jésus. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Il est le tronc, nous sommes les branches. La branche porte du fruit, mais la branche ne peut pas produire du fruit en elle-même. Elle doit être attachée au tronc, au cep. Et est-ce que la branche produit le fruit? J'ai jamais vu une branche faire pour avoir un fruit. Non, c'est le cep. C'est Dieu qui produit le fruit et on doit s'attacher à lui. Trouver son plaisir en Dieu, c'est réaliser le paradoxe profond que Jésus nous dit. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de mon nom la gardera éternellement. Le paradoxe que ma vie, devant toutes les bontés de Dieu, ne vaut rien. Je suis une vapeur. Et l'Ecclésiaste, ça le déprime. Salomon, il est déprimé de lire que sa vie et que toutes ses réalisations, il va les donner à son fils. Et qui sait si mon fils va être sage ou intelligent? Qui sait? Qu'est-ce que mon fils va faire avec tout ce que j'ai fait? Et là, ça vient le... ça le déprime. Mais pourtant, on le sait, Jésus nous a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Je vous le lis. Je n'ai pas écrit la bonne référence. Désolé. Mais Jésus nous dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire mourir à soi-même. Ça veut dire accepter la honte. Ça veut dire accepter d'être rejeté de la société. Vous savez, quelqu'un qui était crucifié était maudit. Il était vu comme un moins que rien. Il était vu, si c'était quelqu'un de ta famille, tu le reniais. Là. C'était terrible. Celui qui veut me suivre prenne sa croix. Volontairement, j'exprime devant Dieu, devant les autres, ma famille, mes amis, moi, ma vie est cachée en Christ. Et on a l'appel comme croyant d'imiter le Seigneur Jésus, qui lui, dans Hébreux 12, 2, nous dit qu'il a supporté la croix à cause de la joie qui lui était réservée. Le Seigneur Jésus a souffert la croix. Donc, on est appelé à chercher le plaisir. C'est normal. On est tous, qu'on le veuille ou non, à la recherche de notre plaisir personnel. Donc, c'est la première chose qu'on voit ce matin dans l'Ecclésiaste. Et la deuxième chose que je veux couvrir avec vous ce matin, c'est au verset 3 de l'Ecclésiaste, chapitre 2. J'en ai glissé un mot la semaine passée, mais il dit « J'ai résolu dans mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. » Puis là, la semaine passée, j'ai fait point, point. Est-ce que c'est possible de livrer son corps au vin, mais de garder sa sagesse? Moi, je suis comme, pas sûr, Salomon, pas sûr, c'est ta meilleure. Mais vous comprenez, ça nous vient d'une idée qui s'appelle le gnosticisme. Et là, Salomon ne défend pas ce point-là. Mais le gnosticisme, ça vient du mot grec kenosis, qui veut dire connaissance. Et le gnosticisme serait l'idée d'une connaissance cachée, que le but... Un des buts de notre vie, c'est de trouver ou de connaître les choses qui sont cachées. Et les connaissances cachées ont souvent rapport avec le monde des esprits, le monde des anges. Et Salomon, même dans toute sa sagesse, était entouré d'une certaine philosophie. Les Grecs et les Romains, comme Platon et Socrate, ont très popularisé cette idée-là. Et l'idée suivante du dualisme. Quelqu'un sait c'est quoi le dualisme? Je ne vous le demanderai pas. C'est l'idée qu'il y a une séparation entre le monde matériel et le monde spirituel. Et que les deux sont complètement dissociés. Et en gros, le dualisme gnostique nous exprime la chose suivante. Le monde matériel est mauvais. Il est méchant. Et Dieu est dans le monde spirituel. Donc, par la même chose, on peut arriver Notre corps est mort, mais notre esprit est sauvé. OK? Et cette approche-là du monde fait que plusieurs, en fait, a donné naissance à plusieurs fausses doctrines, comme la chose suivante, et les pères de l'Église l'ont adressé beaucoup, et on a un clin d'œil de ça quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens, qui est la chose suivante: Jésus m'a sauvé, je peux faire ce que je veux avec ma vie. Jésus a sauvé mon esprit, mon corps est mort, mon corps est la source de tout le péché dans ma vie, donc, si mon esprit est sauvé, je peux faire ce que je veux avec mon corps. Parce que, ultimement, de toute façon, le corps va être détruit et mon esprit va être au ciel. C'est la mentalité gnostique. Le dualisme qui est présent. Et Salomon, ici, ça, c'est comme un des versets qui est parfois utilisé. Je vais faire ce que je veux avec mon corps, mais je vais continuer à me conduire avec sagesse. Et Salomon, ceux qui connaissent la fin de l'histoire, il n'a pas réussi. OK? Salomon a, à un moment donné, perdu le cap. Combien de temps il a réussi à faire ça? Je ne sais pas. Mais finir sa vie avec 700 femmes, 300 concubines, t'as manqué le bateau. Et l'idée ici, c'est vraiment cette... Dans le fond, sans Jésus, ça pourrait faire du sens. Et si vous prenez le temps de lire et de rechercher certaines religions du monde en ce moment, c'est littéralement un dualisme, une connaissance cachée. Combien de fois vous voyez des gens autour de vous, vous entendez parler de certaines personnes qui disent « Ah, j'ai des révélations spéciales » ou « Voici comment avoir d'autres informations » puis là, on peut inclure tout ce qui est dans le monde de l'occulte, des boules de cristal, de tirer au tarot, lire les lignes de la main, trouver l'avenir, trouver des connaissances cachées afin d'avoir des réponses spirituelles. Oh, il y a quelqu'un qui joue avec mes affaires. Mais le but, c'est vraiment ça, cette idée-là d'avoir des connaissances cachées pour trouver des choses et trouver le monde spirituel. Et ça vient vraiment attaquer et minimiser notre salut en Christ. Pourquoi? Parce que si le salut est simplement d'avoir une révélation spirituelle qui va nous donner plus de connaissances, on passe à côté de l'œuvre complète de Jésus. Si on prend l'idée mythologique de la vie et du spirituel et du physique et qu'on dissocie les deux, ça va nous mener à un déni de l'importance de l'œuvre de Christ. Et là, le salut en Jésus, qui est la réponse absolue à l'idée du gnosticisme. Premièrement, Jésus avait un corps. La Bible nous dit que Dieu lui a préparé un corps. Jésus était un homme semblable à nous, sans péché. Mais Jésus était un homme, il avait un corps. Jésus n'était pas seulement un esprit, comme certains groupes gnostiques veulent bien l'annoncer. Et Jésus n'était pas seulement intéressé par nous réveiller spirituellement. Vous savez, à un certain moment, Jésus parlait en parabole. Et là, les disciples lui ont demandé, « Pourquoi, Seigneur, parles-tu en parabole? » Et il leur a dit, simplement, afin qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que c'est la réponse de quelqu'un que sa mission, c'est de donner une nouvelle connaissance? Pas vraiment. Vous comprenez? Et Jésus avait un corps, il était présent, il était physique, il a mangé, il a dormi, il a été fatigué, il a souffert, il a été tenté comme nous en toutes choses, comme nous le dit le livre d'Hébreux. Et savez-vous ce qui est difficile avec la tentation? C'est que la tentation arrête quand tu succombes. Qu'est-ce qui arrive quand tu succombes jamais? La tentation arrête jamais.
Il a été tenté plus que nous, parce que tout le monde tombe, mais Jésus jamais. Et donc, Jésus avait un corps, Jésus était aussi vraiment mort. Jésus, à partir de un certain moment dans son ministère, a commencé à annoncer aux disciples qu'il devait aller à Jérusalem, être mis à mort et ressuscité. À peu près aux deux tiers, trois quarts de son ministère, il a commencé à annoncer aux disciples qu'il devait mourir. Et les disciples ne comprenaient pas. Et là, c'est quelque chose qui est débattu. Jésus est-il vraiment mort? Parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus, Jésus est mort. Et ça va avec mon autre point. Jésus est mort. Et là, ensuite, ce que les disciples ont vu, c'est seulement son esprit. Donc, on est sauvé dans notre esprit. Mais le corps, on s'en fout. Et de là, la doctrine gnostique qui fait une différence entre le corps et l'esprit, qui dit aux gens que tu peux vivre ce que tu veux. Mais Jésus est vraiment mort dans son corps et il est ressuscité dans son corps. Pourquoi? Parce que Dieu ne dissocie pas le corps et l'esprit. Dieu promet qu'on va être ressuscité avec lui dans notre corps. Un corps glorifié, libéré du péché, mais c'est le but ultime. Et Paul le résume très bien quand on voit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, chapitre complet sur la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, ce que nous croyons ne vaut rien. Parce que Christ est la vie. Il est non seulement la vie spirituelle, mais il est aussi la vie physique. Quand Jésus a ressuscité Lazare, un commentateur fait la remarque suivante qui est un peu comique. Il dit « Une chance que Jésus a dit son nom ». Il a dit « Lazare, sors ». S'il avait juste dit « Toi qui es mort, sors », tout le monde se serait levé, puis là, on aurait capoté un petit peu. The Walking Dead, là, tu sais. Mais Jésus est vraiment mort et ressuscité dans son corps. Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas non plus une révélation spéciale, unique et cachée qui est donnée seulement à certains. Non, c'est l'Évangile qui est fait pour être proclamé à tous et qui va trouver racine, le semeur sorti pour semer, qui va trouver racine dans la bonne terre, qui va grandir, qui va porter des fruits. Seigneur Jésus est ressuscité dans son corps pour nous montrer que notre corps est important aux yeux de Dieu. Et si tu vis dans ton corps de la maladie, des choses difficiles, sache que ultimement tu vas avoir l'espoir, tu vas être complètement régénéré. Le dernier point, c'est le suivant sur celui-là. Nous serons glorifiés avec lui dans notre corps. Ultimement, Jésus gagne, nous glorifie, nous serons avec lui, nous serons semblables à lui sans péché, avec la capacité d'aimer et de chercher Dieu de toute notre âme, notre force, notre pensée, de tout ce que nous sommes. On n'aura plus cette lutte-là avec le péché. Et donc, c'est les deux points que je voulais souligner. Ce n'est pas une révélation spéciale et on ne fait pas une différence entre le corps et l'esprit. OK? Jésus dit, à cause des mauvais trésors de votre cœur que vous cherchez des mauvaises choses. Ce n'est pas les choses externes qui souillent l'homme, c'est ce qui est en dedans de lui. Et personne ne peut nier ça. On cherche toutes des choses qui n'ont pas rapport. Moi, le premier. Mais le but du chrétien, le but de notre salut, c'est de détourner nos yeux de soi-même, de notre nombril, de notre vanité, de nos bulles de savon, et de les tourner vers ce qui satisfait vraiment, et de faire confiance à Dieu qu'il va nous satisfaire vraiment. Et vous savez, dans le monde où on est, Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et là, quelqu'un a déjà vu un chameau passer par le trou d'une aiguille? Moi, j'ai de la misère à passer un fil dans le trou d'une aiguille. Et Jésus ne fait pas une hyperbole, il fait une exagération. Il démontre qu'il est impossible à l'homme de sauver. Il dit dans le verset qui suit, « Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. » Alors, notre salut, tout ce qu'on est, doit passer par Dieu, doit découler du fait que je tourne mes regards vers Jésus, vers son œuvre, et que j'apprends à aimer ce que Dieu aime, donc sa propre gloire, son Fils, le salut disponible en Christ et la sainteté. C'est ça que Dieu aime. C'est ça que Dieu recherche. Et c'est ça qu'on devrait aimer et chercher le premier. Ça veut dire que ça enlève notre capacité humaine à avoir la peur des hommes, notre capacité humaine à souvent chercher à nous cacher derrière certaines réalités, certaines choses qu'on vit. Quand on tourne les regards vers Dieu, tout le reste perd sa saveur. Et ensuite, on regarde, dans le fond, Salomon nous parle un peu de matérialisme. J'exécutais des grands ouvrages, je bâtis des maisons, je plantais des vignes, je fis des jardins, des vergers, plantais des arbres. Vous savez, il nous parle des richesses matérielles. Et dans Luc 12, Jésus nous enseigne à dire, ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Faites-lui confiance. Qui parmi vous peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie par ses inquiétudes? Bonne chance. L'idée importante et profonde, c'est que Dieu est au courant. Dieu vous a créé, m'a créé, avec toutes mes hormones, toutes mes émotions, il sait comment mon cerveau fonctionne bien mieux que tout le monde qui peut chercher ça. Et on cherche souvent notre plaisir dans les biens matériels. On cherche notre bonheur dans les biens matériels. Et souvent, quand on a nos biens matériels, hein, on en a parlé la semaine passée, souvent, ça ne satisfait pas longtemps. C'est le fun, on a un nouveau char, puis là, on fait une scratch dessus, il n'est plus neuf. Si on l'achète neuf, on roule en dehors du stationnement de la place où on l'a acheté, puis il perd la moitié de sa valeur. Ah, ça fait un peu mal au cœur. Mais ça fait partie des réalités. Les richesses matérielles ne satisferont jamais votre cœur. La deuxième chose qu'il parle, le prestige. Hein? J'ai acheté des serviteurs, des servantes, j'ai fait le party, j'ai eu des bœufs, j'ai ramassé de l'argent, j'ai eu des femmes, je devins plus grand, au verset 9, que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et ma sagesse demeura avec moi. C'est l'autre point. Hein, il est intelligent. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue. J'ai cherché tout ça. Et Galates 1, 10 nous dit, est-ce que je cherche encore la satisfaction des hommes ou je cherche la satisfaction de Dieu? Et donc ici, et si vous lisez au verset 11, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Après avoir fait tout ça, après avoir possédé tout ça, d'avoir été l'homme le plus sage, que des gens faisaient des kilomètres et des kilomètres pour le voir, des voyages de plusieurs mois pour jaser avec Salomon une journée de temps, puis les gens disaient, ça a valu la peine, je suis allé jaser avec Salomon. Salomon, quand il regarde sa vie, qu'il se regarde derrière lui, il réalise que ça ne valait rien. C'est une vanité. Et ensuite, on peut lire les versets 12 à 26, mais il dit ensuite, « J'ai tourné mes regards vers la sagesse et la sottise et la folie, car que fera l'homme qui succéda au roi? Il fera ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. J'ai reconnu aussi qu'ils ont, l'un et l'autre, le même sort. » Un idéalisme le courant philosophique qui suborne à la pensée toute existence, tout être objet, tout être objectif et extérieur à l'homme. C'est l'attitude ou le caractère de quelqu'un qui se propose un idéal élevé, voire utopique, et qui croit en des valeurs idéales, en particulier sur le plan social. Ce que Salomon dit ici, c'est « Dans un monde idéal, je me suis donné à la sagesse. Je me suis donné à trouver le sens de la vie dans le plaisir, dans les relations, dans tout ce que j'ai, dans la sagesse. » Et il y a beaucoup de gens, même chrétiens, qui vivent dans un idéalisme constant. Parce que l'idéalisme, c'est créer des standards vraiment, mais vraiment bons et supérieurs à ce que je vois. Voire utopique. Utopique, là, ça veut dire qui vient de la fantaisie. C'est un monde parfait que je me crée moi-même. Et là, il y a beaucoup de chrétiens qui se créent des valeurs qui ne sont pas nécessairement ancrées dans la parole de Dieu et qui, là, vont dire « ça, c'est l'idéal, c'est ça qu'un chrétien fait » et ils vont vivre comme ça, particulièrement sur le plan social. Ils vont se juger les uns les autres, ils vont arriver à vivre une vie et Salomon, ici, regarde autour de lui, il cherche dans sa sagesse, il dit « c'est meilleur d'être sage que d'être insensé, mais comme on va regarder ensemble, la mort nous égalise tous. » Et Paul a eu à dealer avec cette idée-là de se faire un idéalisme, d'ajouter, si vous lisez dans le livre de Galates, il y a un argument dans Galates où les Galates ajoutaient des choses. Et voyez comment Paul les approche. Il leur dit, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Ton idéal va-t-il inclure l'éternel au centre de tout? Est-ce que tu recherches ton plaisir en Dieu? » Si vous lisez le livre des Galates, non. Galates, au chapitre 3, il leur dit, « Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné au point de vous détourner de Dieu? Qui vous a fasciné? Est-ce que tu t'es créé un idéal? » Et les Galates, pour vous mettre en contexte, rajoutaient la loi, voulaient que les chrétiens se fassent circoncire, voulaient qu'ils obéissent à la loi. Et là, ils s'étaient fait un idéal. Oui, Jésus nous sauve, mais la loi me sécurise. Et là, ça amenait tout un problème. Et il dit aussi, « Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Arrêtez de vivre pour Jésus en ajoutant un idéal fait de ma propre volonté. Ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On est appelé. Est-ce que je sème pour l'Évangile ou non? Et les réponses de Paul sont vraiment exceptionnelles, sont différentes. Regardez ici. Qui vous a fasciné? Est-ce que vous cherchez la faveur des hommes ou celle de Dieu? Qui vous a arrêté? Est-ce que tu rajoutes, est-ce que tu t'es créé une utopie, un idéal, quelque chose qui va prendre la place de Dieu? Et Paul lui répond et dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Il s'accroche à la réalité qu'il doit mourir à soi-même. Hein? Trouver son plaisir en Dieu, c'est réaliser que je dois chercher la même chose que Jésus. Il termine son livre en disant, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Est-ce que l'Évangile est le centre de ta vie? Est-ce que l'Évangile vient prendre toute sa beauté dans la personne de Jésus pour toi? Est-ce que la croix de Christ est un honneur pour toi? Est-ce que c'est ce qui vient vraiment baser ton salut, ta vie et tout ce que tu recherches? Est-ce que tu aimes Dieu plus que toi-même? Est-ce que tu as été crucifié avec Christ et maintenant tu veux le suivre? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu? Est-ce que tu te sais pardonner? Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu penses. Est-ce que tu crois que Christ peut changer ta vie et tes circonstances? Est-ce que tu crois qu'il a payé et que peu importe la honte que tu portes, ce que tu as vécu et les difficultés qui t'ont forgé peut-être un caractère difficile, Christ a payé pour ça. Est-ce que tu crois que Christ a envoyé son Esprit-Saint et que son Esprit-Saint vit en toi afin que tu sois pleinement régénéré et conscient de l'amour de Jésus? Est-ce que tu te sais aimé, adopté, purifié par Christ? Est-ce que tu l'aimes assez pour renoncer à ta vie vaine et espérer dans les choses futures, dans le retour de Christ, dans l'éternité passée à l'adorer? Est-ce que c'est ça que tu recherches personnellement? Ou est-ce que tu cours après les biens matériels, le prestige, l'intelligence plus que Dieu? Vivre sans Dieu n'a pas de but. Salomon, à un moment donné, dans son texte, il dit: « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. » Il a regardé la bémol. « Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » Tout vient de la main de Dieu. Bâtir notre vie sur autre chose que Jésus, que Dieu, ne durera pas. La mort nous égalise tous. Et je ne suis pas le genre de personne qui va vous présenter l'Évangile comme un ticket pour ne pas aller en enfer, mais je vais vous poser la question. Es-tu prêt à mourir? Moi, je le suis. Je ne suis pas dépressif, là, mais ça peut arriver là, puis je serais content. Parce que j'ai espoir, et donc je vis ma vie en sachant que ce qui s'en vient va être mieux. J'attends de rencontrer Christ pour qu'il dise: « Marco, tes souffrances, tes luttes, tes combats sont finis. Maintenant, entre dans le repos de ton maître. » Et j'attends ça. Et j'espère être capable de m'accrocher à Dieu dans toute chose dans ma vie en ce moment. Parce que le combat, il n'est jamais terminé. Et vous savez, il y a une chose. Est-ce que je cherche et je trouve mon plaisir en Dieu? Vous savez, moi, j'aime ça bien paraître. J'aime ça être bon, j'aime ça gagner. Et ce que j'aime surtout, c'est quand les gens réalisent à quel point je suis bon. Non, mais vous n'êtes pas obligés, là, mais... Mais c'est quelque chose qui peut et qui a déjà été un but dans ma vie, d'être un gagnant, d'être le meilleur dans tout, de performer. Et aujourd'hui, ça peut se montrer son petit visage lettre là, dans ma vie des fois. Mais vous savez, Paul nous donne quelque chose d'exceptionnel. Dans Romains, au chapitre 2, verset 29, le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre ou selon la loi. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voulez-vous être louangé par le Dieu qui a créé l'univers, qui a pris un corps semblable au nôtre, qui a tout porté nos péchés sur la croix, qui a accepté d'être détruit, humilié, brisé pour nous, qui a porté nos péchés, qui est ressuscité pour nous donner la vie, pour gagner pleinement. Est-ce que vous voulez la louange de ce Dieu-là ou vous voulez celle des hommes qui, d'une main, peut vous louanger puis de l'autre, dire que vous êtes la pire personne du monde? Et Salomon en parle plus loin. La louange d'un tel homme ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Est-ce qu'on cherche ensemble, ici dans l'Église, est-ce que tu veux avoir la louange de Dieu dans ta vie? Vous ce qu'on apprend ce matin, ce que je veux que vous repartiez méditer, c'est que trouver son plaisir en Dieu et non dans les choses du monde. Aimez les mêmes choses que Dieu et trouvez votre information à la bonne place. Il n'y a pas de connaissance cachée. Dieu est simple et Dieu se laisse trouver. Vous me chercherez si vous me... Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voici, je me laisse trouver par vous. On va prier. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai à cœur de prier parce que tu es un Dieu qui est grand, qui est infini. Seigneur, je te prie que ce matin, on puisse tous et chacun dans notre vie personnelle chercher et trouver notre plaisir en toi, dans ta gloire, dans ta grâce, dans ton amour. Seigneur Dieu, ce qu'on veut ce matin, c'est que tu fasses un travail exceptionnel dans nos vies. D'enlever notre cœur de pierre, de nous donner un cœur de chair qui va être sensible et qui va aimer les choses que toi, tu aimes. Seigneur, aide-nous à te mettre au centre de nos vies quand c'est difficile. Aide-nous à nous accrocher à toi quand toute chose semble perdue. Seigneur Dieu, tu n'es pas difficile à trouver. Ton évangile est simple, tu as tout fait, Seigneur. Mais parfois, c'est difficile pour nous de s'accrocher et de te faire confiance, d'avoir la foi et d'espérer dans les choses que tu nous promets. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses fortifier l'âme de chaque personne ici, que tu puisses nous aider, Seigneur, à te glorifier dans nos corps, que tu puisses nous aider à donner de l'importance aux choses que tu aimes, à aimer nos prochains comme nous-mêmes, à t'aimer en premier, à te glorifier, à chercher, Seigneur, à te plaire par-dessus tout. Seigneur Jésus, que tu sois notre but, que tu sois aussi notre support, que tu sois, Seigneur, toute notre vie. Et Seigneur, tu nous promets des grandes choses, tu nous promets d'être avec nous, tu nous promets de nous satisfaire. Et Seigneur Dieu, tu vas satisfaire les choses que tu aimes et tu vas les produire en nous. Aide-nous à produire des fruits dignes de la repentance. Aide-nous à produire des fruits qui vont refléter notre amour pour toi et ton amour pour nous. Jésus, que ton nom soit glorifié, qu'on puisse t'aimer et te chercher de toute notre force. Seigneur Jésus, merci pour ce temps ce matin qu'on a ensemble à te louer, à te chercher. Et glorifie ton nom à travers nos vies. Merci pour ta parole. Bénis-nous ensemble dans le nom de Jésus. Amen.